bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les armes vont-elles se taire entre Gaza et Israël? Après deux jours d'extrême tension et plusieurs morts de chaque côté, un accord de cessez-le-feu a été signé ce matin. Nous serons en direct de Jérusalem dans un instant. À l'étranger, encore l'inquiétude qui grandit au Bénin. Cinq jours après la disparition de deux touristes français, le corps de leur guide retrouvé mort hier a été formellement identifié. Dans l'actualité également, le procès très attendu des suicides à France Télécom. La biodiversité de la planète est en grave danger. Selon un nouveau rapport, 1 million d'espèces sont menacées. Et puis on parlera aussi dans ce journal des trajets domicile-travail. Le gouvernement réfléchit à une prime de mobilité de 400 euros par an et de la deuxième vie des autolibs qui retrouvent du service loin de Paris.
Invité d'Alexandra Ben Saïd à 7h50. Dans 20 minutes, la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Elle est membre également de la Commission des Finances. J'ai nommé Olivia Grégoire.
France Inter.
Et direction le Proche-Orient, Sébastien, pour commencer avec un accord de cessez-le-feu à Gaza.
Oui, depuis samedi, la situation menaçait de dégénérer en un nouveau conflit entre l'enclave palestinienne tenue par le Hamas et l'État hébreu. Un déluge de roquettes face à des frappes massives, 600 roquettes tirées depuis Gaza, 23 morts côté palestinien et 4 morts côté israélien. Il s'agit des tensions les plus vives qu'ait connue cette zone depuis la guerre de 2014. Nous sommes maintenant en ligne avec notre correspondant sur place, Étienne Monin. Étienne, on a appris cette nuit qu'un cessez-le-feu était donc entré en vigueur tôt ce matin, un cessez-le-feu qui semble tenir jusqu'à maintenant.
Oui, marque sans doute la fin de cette poussée de fièvre. Les mesures de sécurité ont été levées côté israélien, c'est un signe important. On peut donc classer cet affrontement comme un nouveau chapitre dans la tension permanente avec Gaza. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un mécanisme de désespoir et d'extorsion s'est mis sur pied autour de Gaza. La violence et les armes lourdes servent de levier de négociation depuis des mois. Chaque round de tension apporte des avancées financières, humanitaires. Israël négocie le retour au calme, mais la situation reste précaire. Le naufrage humanitaire de Gaza se poursuit inexorablement, faute de véritables solutions politiques appropriées. Ce nouveau pic de tension a encore un peu plus rapproché les adversaires de la guerre. Le nombre de roquettes est inédit. Israël est revenu à la politique des assassinats ciblés. Mais personne, au fond, ne souhaitait déclencher cette guerre. C'est aujourd'hui Ramadan en Palestine. De l'autre côté, les Israéliens vont célébrer l'indépendance. Ils seront au centre du monde la semaine prochaine avec l'Eurovision. Les groupes armés à Gaza ont donc utilisé une fenêtre pour rappeler le gouvernement à ses engagements. Le précédent pic de tension remonte à un mois et demi avec des roquettes tirées en direction de Tel Aviv.
Étienne Monin en direct de Jérusalem. Et puis le dernier coup de pression de Washington a-t-il joué un rôle dans ce cessez-le-feu? La Maison Blanche, en tout cas, a révélé hier qu'un porte-avions et une force de bombardiers étaient en route vers le Moyen-Orient. Un message clair et indubitable à l'Iran, selon le conseiller Donald Trump, John Bolton.
7h34, Sébastien, la France a-t-elle de nouveaux ressortissants aux mains des djihadistes?
L'hypothèse de l'enlèvement est en tout cas de plus en plus probable ce matin. Deux touristes français ont disparu au nord du Bénin depuis mercredi dernier. Le corps de leur guide a été retrouvé hier. Sa mort confirmée par le Quai d'Orsay. Les précisions d'Éric Biegela.
Le corps retrouvé samedi avait été dégradé par les charognards au point de le rendre visuellement inidentifiable. C'est grâce à ses effets personnels que la famille du guide a pu l'identifier hier. Et c'est sans doute l'endroit où a été découvert son corps qui est le plus significatif. Sur les rives béninoises de la Pendjari, la rivière qui marque la frontière entre le Bénin au sud et le Burkina Faso au nord. Une présence qui semble indiquer que les deux Français ont pu passer ou être emmenés au Burkina. Un véhicule semblable à celui que conduisaient les trois hommes aurait également été retrouvé abandonné au Burkina Faso, ce qui pourrait accréditer la thèse d'un enlèvement. Dans cette région du Burkina, plusieurs groupes djihadistes issus d'Al-Qaïda et venus du Mali sévissent depuis 6 mois. En décembre, un couple de touristes italo-canadiens a pareillement disparu dans la même région. Leur enlèvement n'a jamais été revendiqué, mais une source sécuritaire burkinabé affirmait en mars dernier qu'ils étaient vivants, probablement détenus au Mali par les djihadistes. C'est peut-être le sort qui a été réservé aux deux enseignants français disparus mercredi. Ils auraient dû rentrer de leurs vacances africaines ce dimanche.
Et bien, Eric Biagala de la rédaction internationale de Radio France. Après un 1er mai polémique la semaine dernière, le gouvernement veut du consensuel pour ouvrir cette semaine politique. Édouard Philippe reçoit ce matin tous les corps intermédiaires à Matignon, une belle photo de famille en perspective pour illustrer la nouvelle méthode affichée par l'Élysée après le grand débat. Concrètement, le chef du gouvernement va réunir à partir de 9h30 les partenaires sociaux, les associations d'élus et les acteurs associatifs avec au programme 5 chantiers prioritaires, l'apprentissage, les emplois non pourvus ou encore les gestes écologiques du quotidien. L'un des sujets sur lequel l'État est attendu, c'est la prime mobilité, faciliter les trajets domicile-travail, car jusqu'ici ce sont surtout les régions qui ont innové et qui ont mis la main au portefeuille. Adrien Toffolet.
30 euros par mois versés directement sur la fiche de paye pour les salariés qui gagnent moins de 2 SMIC par mois, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail. Ça s'appelle le ticket mobilité, mis en place depuis le 1er mai en Bourgogne-Franche-Comté, financé par la région et les entreprises, et né en réponse directe au mouvement des Gilets jaunes. Marie-Guide Dufay est la présidente de la région.
Très vite, quand la crise des Gilets jaunes est survenue, j'ai fait savoir aux autres régions qu'il me semblait qu'il y avait une négociation à entreprendre avec les entreprises sur cette cible très précise. Pour les salariés qui sont en milieu rural, il y a une double peine. Ils sont en milieu rural, ils ont beaucoup de déplacements à faire et il n'y a pas de dispositif national, législatif, qui atténue leurs difficultés à ce niveau-là.
La Bourgogne-Franche-Comté met aussi le paquet pour développer le covoiturage. Valérie Pécresse, en Ile-de-France, en a aussi fait sa priorité avec une aide financière pour les conducteurs. Dans les Hauts-de-France, le chèque transport de Xavier Bertrand, fort de son succès, a été élargi. Une prime pour aider à la conversion des voitures au bioéthanol a été adoptée en PACA et en Grand Est, sans oublier le rail en Occitanie et Centre-Val de Loire où de nouveaux tarifs entrent en vigueur. Bref, des dispositifs qui n'ont pas manqué d'intéresser le gouvernement au point de réfléchir à généraliser certains au niveau national.
Adrien Toffolet.
7h37, autre chantier du gouvernement, moins consensuel celui-là, c'est l'aide aux enfants placés.
Ces enfants qui, jusqu'à l'âge de 18 ans, bénéficient du soutien des départements via l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et qui, le jour de leurs 18 ans, se voient parfois tout perdre, plus d'argent, plus d'hébergement. 20 000 jeunes, comme on dit, sont concernés. Un texte de loi sera débattu aujourd'hui et demain à l'Assemblée pour résoudre ce qu'on appelle les sorties sèches, une proposition de loi de la députée d'En Marche, Brigitte Bourguignon. En parallèle de cette initiative, des collectifs d'anciens enfants placés signent ce matin une tribune dans le journal Libération. Lisa Guyenne s'est entretenue avec l'une des signataires.
À 30 ans, Fouzi Maté a passé la moitié de sa vie en foyer et en famille d'accueil de 3 ans à 18 ans. Aujourd'hui, coprésidente de l'association Repère 94 qui vient en aide aux anciens enfants placés, elle est sidérée par ce qu'elle voit.
On n'a jamais eu autant de jeunes qui viennent nous voir et qui sont à la rue le jour de leur anniversaire. Ils vont au service de l'ASE qui leur disent « c'est fini » puis ils prennent leur sac à dos et ils doivent se trouver une solution.
Des jeunes à la rue, sans ressources, faute d'avoir obtenu un contrat jeune majeur, un dispositif censé aider ceux qui sortent de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Fouzi Maté en a bénéficié, mais tout le monde est loin d'être logé à la même enseigne, selon elle.
Ces contrats jeunes majeurs sont complètement dépendants des différents départements. Donc certains départements font des contrats jeunes majeurs, d'autres non. Et c'est aussi à la discrétion de l'inspecteur ASE.
Car le contrat jeune majeur n'est pour l'instant ni imposé ni généralisé. Chaque département peut choisir ou pas de l'appliquer. Aujourd'hui, les associations réclament qu'ils deviennent obligatoires.
On peut naître et grandir dans le bon département pour certains et pour d'autres non. Ça dépend énormément en fait de sur qui on tombe. Et c'est pour ça que c'est plus possible et c'est pour ça qu'on demande que ça devienne obligatoire.
Chaque année, il serait 5000 jeunes à sortir ainsi de l'aide sociale à l'enfance sans aucune ressource disponible.
Lisa Guyenne, 7 sapeurs-pompiers de Paris sont toujours en garde à vue depuis hier soir dans le cadre de l'enquête pour viol en réunion. Dans une caserne parisienne, une étudiante norvégienne a porté plainte samedi contre les militaires. La jeune femme aurait affirmé avoir eu un rapport sexuel consenti suivi d'autres rapports non consentis.
Et on termine, Sébastien, avec la nouvelle vie des Autolib.
Souvenez-vous de ces petites voitures électriques parisiennes, véritable gouffre commercial pour la mairie de Paris et pour son constructeur, le groupe Bolloré. Alors que sont devenus les 3952 Autolib exactement, parfois martyrisés par les conducteurs peu scrupuleux? Eh bien, le stock a été acquis par l'entreprise MyCar, qui les a ensuite revendus à quelques entrepreneurs, dont le garage Cavarec à Romorantin. 3000 véhicules réparés, reconditionnés, et la Blue Car, vit désormais sa seconde vie tranquillement dans les petites rues de la capitale de la Sologne et dans ses environs. Reportage Thibault Lefèvre.
La blue car de Fabrice est rouge, 27 000 km au compteur. Il l'a payé 4 300 euros et depuis 3 mois, il la conduit tous les jours.
Je m'en sers pour aller essentiellement au travail. C'est super économique. La consommation, elle est divisée par presque par 10. Par contre, on en croise beaucoup, hein, du coup, hein, ce Romorantin, on a beaucoup d'amis blue car, quoi.
Car plus de 2000 blue cars circulent depuis le début de l'année dans la ville et ses environs. Ces voitures électriques ont été remises en état, puis vendues par le garage Cavarec. Charlotte Cavarec est la co-gérante.
Elles ont subi l'autopartage. Elles ont toute leur histoire parisienne avec elles. Elles sont parfois très abîmées. C'est surtout la carrosserie. La carrosserie, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas redresser l'aluminium. Donc nous, on fait toute la remise en état mécanique. On les emmène au contrôle technique et on fait un décapage en carrosserie et un nettoyage intérieur de la voiture.
Le garage Cavarec a encore quelques centaines de voitures électriques à vendre. Le reste du stock est dans le Morbihan, à Lorient, où un autre garage redonne une seconde vie au blue car. Leurs clients, des particuliers bien sûr, mais aussi des entreprises et des collectivités territoriales.
Bon, voilà la tranquille deuxième vie des Autolib', le reportage de Thibault Lefèvre.
Merci Sébastien Legénie.